de drôles de types qui vivent de leurs plumes ou qui ne vivent pas, c'est selon la saison. Ce sont de drôles de types qui traversent la brume avec des pas d'oiseaux sous l'aile des chansons. Leur âme est en carafe sous les ponts de la Seine, leur souffle dans les bouquins qu'ils n'ont jamais vendus. Leur femme est quelque part au bout d'une rengaine qui nous parle d'amour et de fruits défendus. Ils mettent des couleurs sur le gris des pavés, quand ils marchent dessus, ils se croient sur la mer. Ils mettent des rubans autour de l'alphabet, ils sortent dans la rue leurs mots pour prendre l'air. Ils ont des chiens parfois compagnons de misère et qui lèchent leurs mains de plumes et d'amitié avec dans le museau la fidèle lumière qui les conduit vers les pays d'absurdité. Ce sont de drôles de types qui regardent les fleurs et qui voient dans leurs plis des sourires de femmes. Ce sont de drôles de types qui chantent le malheur sur les pianos du cœur et les violons de l'âme. Leurs bras tout déplumés se souviennent des ailes que la littérature accrochera plus tard à leur spectre gelé au-dessus des poubelles où remourront leurs vers comme un effet de l'art. Ils marchent dans l'azur, la tête dans les villes et savent s'arrêter pour bénir les chevaux. Ils marchent dans l'horreur, la tête dans des îles où n'abordent jamais les âmes des bourreaux. Ils ont des paradis que l'on dit d'artifice et l'on met en prison leurs quatrains de 10 sous comme si l'on m'était offert un édifice sous prétexte que les bourgeois sont dans les coups.
Du Occitanie et de la poésie. Bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir cette antenne de Radio Occitanie, Michel Host. Michel Host, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, Michel Host.
C'est moi qui vous remercie. Hein, parce...
Nous voilà. Avons eu le grand plaisir déjà de faire une émission avec vous de la parution des Jardins d'Atalante aux éditions Rhubarbe. C'était en 2014, si j'ai bonne mémoire. Hein, un très beau recueil. Et dans ce, quand vous m'avez envoyé ce recueil, adressé ce très beau livre, vous disiez, je l'ai conservé, vous me parliez déjà d'une nouvelle republication du romancero gitano.
Oui, eh bien, elle est là.
Voilà. Donc elle est là. Donc 2014, vous aviez ce projet, il est maintenant abouti. Puisque vous publiez aux éditions Alcyone dans la collection Mitra, El Romancero Gitano, les romances gitanes, suivi de Complète funèbre pour Ignacio Sanchez Mejías. Voilà. Donc c'est une nouvelle traduction, votre traduction de Michel.
Ah, c'est la même, voilà.
Oui, oui, oui.
Bon, et il faut aussi remercier les éditions Alcyone parce qu'elles ont eu le courage de se redresser et de continuer leur travail, voilà.
Tout à fait.
Une édition de poésie tout à fait courageuse.
Oui, nous sommes toujours ici vigilants à ces émissions, et nous signalons toujours les publications que Sylvaine Arabeau a la gentillesse de toujours nous adresser. Voilà. Alors, on va quand même parler un petit peu de vous, hein, Michel Host.
Ah, si vous voulez, oui.
Donc, vous êtes né en Belgique, hein, dans l'amour de la langue française, dites-vous. Vous l'avez même mis sur la quatrième de couverture.
Oui.
Et vos premiers écrits ont été des poèmes. Oui. Donc, vous êtes poète dans l'âme. Hein,
oui, et... je veux simplement dire que j'ai commencé par écrire des poèmes, et c'était ma seule idée. Hein.
Oui. Voilà. Et vous n'avez jamais cessé d'en écrire?
Je ne cesse pas d'en écrire, encore que ce soit par intermittent. Je ne suis pas un poète de l'automaticité, vous voyez, ni mécanisé. Hein. Je ne crois pas trop aux poètes de bureau qui travaillent nuit et jour sans arrêt. Non, ça ne me paraît pas possible. Voilà.
Alors, vous avez publié donc des recueils de nouvelles, des romans, des fictions. Alors, vous dites que ça masque parfois cet enracinement dans le verbe premier et dans la poésie.
Voilà.
C'est-à-dire que vous retrouvez quand même la même démarche, le même élan que vous aviez dans la création poétique elle-même.
Oui, mais je n'exclus jamais la poésie des écrits en prose. Hein.
Bien sûr.
Elle y apparaît aussi parfois, souvent même. Voilà.
Alors, vous êtes également, vous avez eu le prix Goncourt en 1986, je crois, c'est ça.
C'est une très vieille histoire. Sylvaine Arabeau tient absolument à mettre ça en première page. Et il n'y a pas moyen de l'en faire démordre, donc je laisse. Mais ça n'est pas le propos, là.
Oui.
Le prix Goncourt, c'est quelque chose de très à part et dont on pourrait faire toute une émission. À propos du prix et à propos des prix en général, voilà. Mais ça ne me tracasse pas outre mesure, vous voyez.
On vous a bien compris. On vous a bien compris. Alors, vous dites également qu'il arrive que la prose se mue en poème, et vous adhérez à cet avis de Frédéric Tristan, que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui dit « la poésie n'est jamais fictive ».
Il y a... Louis Aragon le dit à sa manière, une poésie qui n'est pas quelque part ancrée dans le réel n'a pas de force, n'a pas d'existence vraiment réelle elle aussi. Oui. Il faut que quelque part ça s'accroche à du réel, et donc on sera, parfois le poète se raconte un peu, de même que le romancier d'ailleurs. Oui. La fiction est très relative.
Hein. Oui. Donc je pense que dans la poésie, l'expérience du vécu reste une expérience quand même prépondérante.
Prépondérante, c'est la table, c'est la base, c'est le socle. Hein. Bon, si on n'a rien vécu, on n'a rien à dire.
Oui, voilà. À fait. Et cette phrase de la poésie n'est jamais fictive. J'ai fait la semaine dernière, nous avons eu une émission qui va passer d'ailleurs ce soir sur nos antennes avec Yves Charnet, qui est un des maîtres de l'autofiction en France. Sa prose est en fait de la poésie, et je crois cette formule de la poésie n'est jamais fictive s'applique parfaitement à ce qu'il fait.
Tout à fait. Et vous la trouverez dans Frédéric Tristan, dans un livre d'entretien avec Jean-Luc Moreau, qui s'intitule « Le retournement du gant », si mes souvenirs sont bons. Voilà.
Merci pour ce renseignement. Alors, dans ce livre présenté, publié aux éditions Alcyone, il y a une présentation, un préambule, ce que vous appelez préambule, qui me semble être terriblement important. Et pourtant, ce préambule, il y a 3-4 pages, quoi, enfin, ou 5 pages. Et il me semble qu'il y a là de quoi remettre un petit peu, un peu de vérité sur toute cette vision d'un Lorca folklorique. Alors ça, c'est pour... moi j'ai jubilé quand j'ai lu ça.
Parce qu'il s'en est défendu lui-même. Hein.
Et vous le faites merveilleusement bien, puisque, en définitive, vous allez chercher ces citations qui vous permettent de confirmer totalement que on est dans l'erreur lorsqu'on considère petit peu Lorca dans cette espèce de folklore gitan, etc. Et que l'Andalousie est avant tout le territoire absolu de ses poèmes. Hein.
Absolument, oui. C'est sa patria chica, comme disait sa petite patrie. C'est sa terre d'enracinement. Et il part de là pour aller à l'universel, d'une certaine façon. Vous savez, ce qui importe, ce qui me paraît le plus important, c'est ce qu'il dit de l'image. L'image n'est vraie que quand elle est en adéquation au projet poétique. Tout le reste n'est qu'artifice et toujours ce qu'Aragon appelle jonglerie. Hein,
oui, jonglerie.
Jonglerie de mots.
Oui.
Bon, lui, non, il veut des images qui soient en adéquation. Bon, j'y ajoute cette couleur particulière qu'il donne à tout le recueil, qu'il appelle la peine, la douleur, je dirais la peine. Peine, hein, la peine andalouse qui est la peine de l'homme, la difficulté de vivre qui est imagée, qui est présentée dans la rythmique et dans la musique poétique, mais qui est là. Hein, après ça, la peine andalouse, bon, d'ailleurs, il la définit qui est un combat de l'intelligence amoureuse avec le mystère qui l'entoure et qu'elle ne peut comprendre. Et oui, il y a des choses que l'homme ne comprend pas. Alors, il ne les explique pas, il les met simplement en lumière. Bon, et puis la dernière chose sur laquelle je veux m'arrêter, c'est le fameux duende. Alors le duende, c'est quelque chose qui, à certains moments, va au-delà de l'art. J'écoutais pas plus tard qu'il y a 3 jours, une pièce de musique très bien jouée par David Oistrakh, deux pièces pour violon et alto. David Oistrakh et son fils, je ne sais plus comment s'appelle son fils. Bon, ils jouaient ensemble, c'était très bien joué, c'était magnifique, c'était de l'art pur. Mais ça s'arrêtait là, il y manquait cette dimension, pardon, qu'on peut trouver par exemple dans La mère de Debussy ou dans le Requiem de Mozart, vous voyez, cette folie. À un moment, l'art est dépassé et Lorca, à mon avis, très souvent, va au-delà de l'art, il va à cette fureur, à ces excès, à ce dépassement, voilà. Et c'est ça qui en fait, je parle même de surpassement, il faut surpasser l'art. Et alors si vous avez lu, vous avez vu l'exemple de cette chanteuse de flamenco.
Oui, voilà, dont on peut d'ailleurs toujours se procurer les enregistrements.
Hein. Bien sûr, hein, oui, bien sûr.
Elle est décédée en 1969.
Oui, hein, je ne sais plus exactement. Oui. Voilà.
Oui. Alors, c'est bien, peut-être vous pourriez nous rappeler ce qui s'est passé vraiment au sujet de cette chanteuse. Cette anecdote qui me semble être très significative de ce que vous expliquez sur ce qui est Duende.
Écoutez, elle chantait dans un petit cabaret de Cadix, je crois, ou quelque chose, oui, de Cadix.
De Cadix,
Et puis ça n'allait pas, rien ne passait, le public restait très froid, un petit bonhomme s'est levé pour dire, pour crier dans la salle, « Vive Paris !» Alors qu'est-ce que ça voulait dire, « Vive Paris » Ça veut dire, tu chantes comme à Paris, oui. Tu fais de l'art, mais tu ne chantes pas comme on voudrait que tu chantes, tu ne dépasses pas ton art. Alors, je vous lis le petit paragraphe qui suit, que j'ai écrit. Alors, elle s'appelait aussi la Niña de los Peines. Se dressa comme une folle. Bon, elle s'est arrêtée un moment, puis elle s'est dit, oui, non, ça ne va pas. Donc, je fais silence. Elle s'est reprise. Alors, elle se dressa comme une folle, se pliant en deux comme une pleureuse médiévale, pour boire d'un trait un grand verre de cassalia brûlant. Puis elle alla se rasseoir pour chanter. Mais chanter sans voix, sans souffle, sans nuance, la gorge embrasée, mais avec le duende, c'est-à-dire avec cette folie du dépassement. Elle avait réussi à mettre à bas tout l'échafaudage de la chanson pour livrer passage à un démon furieux et incendiaire, compagnon des vents chargés de sable, qui fit que l'auditoire se mit à entrer en folie. Je ne sais pas si vous avez écouté ce morceau de Duke Ellington qui s'intitule Crescendo et Decrescendo in Blue, qui a été joué en 52 aux États-Unis. C'est tout à fait ça. Le saxophoniste Paul Gonsalves a joué 27 choruses de suite, et le public est devenu fou. Et lui est devenu fou aussi. Il avait dépassé toutes les mesures du jazz.
Oui.
Il se produit des choses comme ça dans...
Oui, dans le duende.
Et parfois, l'œuvre elle-même le produit. C'est pour ça que je citais tout à l'heure le Requiem de Mozart. Je citais la mère de Debussy. Il y a des morceaux comme ça qui portent l'arme et portent quelque chose de plus. Et c'est ça. Et Lorca, c'est ça. Et ce recueil, c'est ça, à mon avis. C'est quelque chose qui va au-delà de... des limites habituelles, on va dire, pour être simple. Voilà.
Alors ce roman Cerro-Ritano, il s'inscrit donc dans cette tradition du duende, porté à son incandescence, hein, sinon,
oui, voilà. Oui, tout à fait.
Mais
oui.
Également, alors, aussi dans cette tradition totale de ce pays, sa grenade, comme disait Machado, oui. Hein, en parlant de lui à sa mort, hein, de cette Andalousie, et qui est portée aussi bon, par cette tragédie, qui est représentée aussi par la tauromachie. Hein. Et ce que vous dites peut s'appliquer aussi à des instants sublimes, un peu en dehors du temps, que peut nous offrir de temps en temps la tauromachie.
Vous savez, Lorca, à propos de la mort de Sanchez Mejías, qui était un torero qui est mort en 1934 hein, dans les arènes de Manzanares, si mes souvenirs sont bons. Il est mort d'un coup de corne, comme meurent beaucoup de taureaux. Mais c'était un torero d'un genre particulier. Il avait de l'argent, il était mécène, il connaissait beaucoup de poètes. Et il ne se contentait pas de tuer des taureaux. Chose qui est d'ailleurs très mal comprise aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, c'est un crime presque contre l'univers de tuer des taureaux. Mais on mange quand même, enfin, je ne veux pas en faire toute une histoire, mais on mange quand même des steaks et de la côte de bœuf. Et ils ont été tués dans des abattoirs. Ces bêtes ont été tuées dans des abattoirs. Il est encore bien pis. Bon, cela étant dit, Lorca a lié en quelque sorte, sa propre mort à celle de ce torero qui était son ami. C'est comme si c'était moi qui étais mort, a-t-il dit ou écrit quelque part. Voilà. Mais il y a d'autres choses, vous savez. Par exemple, ce qui a fait qu'on a tué faut le dire, des fascistes espagnols de l'époque ont assassiné Lorca, l'ont pris dans sa maison de Grenade, l'ont emmené jusqu'à un ravin, l'ont tué. C'est quelques pièces. Alors, c'est cette Espagne très très sectaire, très 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 réactionnaire au pire sens du terme. Parce que moi, je suis un peu réactionnaire parfois, hein, mais je ne vais pas jusqu'à tuer qui que ce soit, vous voyez. C'est par exemple des pièces qu'on ne soupçonnerait pas de pareilles choses. C'est par exemple le fameux romance de la nonne gitane. Est-ce que...
Oui.
Vous voyez, la nonne gitane, c'est une nonne, c'est donc une religieuse, mais qui est seule dans son couvent et qui brode. Elle brode sur une nappe d'autel et elle refait sa création à elle. Et elle laisse transparaître sa sensibilité, son originalité, sa personnalité et surtout sa sensualité. Donc, ce poème est en lui-même un sacrilège, vous voyez ? Un sacrilège doux, un sacrilège masqué, mais un sacrilège quand même. Mais la pièce qui a déterminé, je pense, le crime contre Lorca, c'est la pièce qu'il a écrite où il fait apparaître la garde civile. Hein.
Oui. Comment c'est la garde civile, oui.
C'est d'ailleurs le roman, c'est de la garde civile espagnole. Si vous voulez, je peux vous en lire un ou deux passages tout à fait significatifs. Alors là, il y a une violence extrême, il y a une douceur extrême, une tendresse extrême dans le roman, c'est de la Luna Luna, qui ouvre le recueil.
Oui.
Mais là, il y a une violence extrême qui est exprimé à travers l'image des santons de la crèche, voyez. Et il fait entrer, il a fabriqué dans son imagination une ville gitane. C'est la nuit de Noël, les gitans sont en procession et rejouent la nuit de Noël en costume, vous voyez. Et la garde civile entre dans cette ville et sème la terreur et la mort. Je vais vous en lire deux petits passages. Alors ça commence ainsi. Noirs ils sont, noirs sont les chevaux. Leurs fers aussi, leurs fers sont noirs. Sur leurs capes partout reluisent des macules d'encre et de cire. Ils ont, c'est pourquoi ils ne pleurent, six obtus des crânes de plomb. Avec leur âme en cuir verni, ils arrivent par la grande route. Bossus au milieu de la nuit, là où ils passent, ils disposent des silences de gomme obscure et tant de peur de sable fin. Ils passent s'ils veulent passer, puis dans leur tête dissimulent une imprécise astronomie de pistolets immatériels. Excusez-moi, je suis un piètre lecteur. Et alors, il y a ces crimes qui sont commis parce que, alors, ce sont des crimes imaginaires, mais qui répondent quand même à la violence de l'époque et à la violence de la police espagnole sous le fascisme.
Surtout à cette époque-là.
Voilà, à cette époque-là. Vous savez que j'ai... Bon, je ne l'ai pas, connu comme ça, mais il y en avait des traces en Espagne des années 60 que j'ai beaucoup fréquenté pour apprendre. Alors, je vous lis simplement encore quelques vers. Alors, obstiné, strident, les fusils claquent durant toute la nuit. Donc, les gardes civils ont envahi la ville. La Vierge soigne les enfants qu'elle oint de salir d'étoiles. Mais la garde civile avance, semant sur ses pas des brasiers dans lesquels, jeune et mise à nu, l'imagination se consume. Rosa, fille des Camborios, assise à sa porte, gémit, regardant ses deux seins coupés qu'on a posés sur un plateau. Et d'autres filles s'enfuyaient, pourchassées, saisies par leur presse, dans un air où partout éclatent de ces roses de poudre noire. Lorsque tous les toits en terrasse furent des sillons mis par terre, l'aube balança ses épaules en un très lent profil de pierre. Voilà, c'est la pure violence qui règne c'est la violence politique qui inscrit le crime de l'humanité en quelque sorte, le crime humain. Voilà. Alors il y a tout ça dans ce recueil, douceur, violence, sensualité.
Oui.
Sensualité. Alors. Violence du martyr de Sainte-Eulalie. Donc, il y a elle aussi eu les. C'est très connu, elle a subi la roue, et elle a eu aussi les seins coupés, et elle est morte dans des tortures infernales. Vous avez aussi la violence sensuelle du viol de Tamar par son demi-frère Amon. Et c'est son vrai frère, son frère entier, si je veux dire, Absalom, qui la vengera. Voilà. Alors là, il y a des vers d'une sensualité extraordinaire. Et c'était très dur à tolérer pour les rigoristes, les gens pieux de l'époque qui étaient des gens à l'esprit étroit et sans aucune ouverture sur le corps, sur le monde, sur la vie. Voilà.
C'est-à-dire que la lecture à l'époque était différente. Il faut bien se resituer dans une époque qui était une époque où chaque mot comptait aussi. Il fallait faire attention à ce qu'on disait.
Ah oui, oui. Par exemple, quand il dit, quand Lorca dit qu'ils étaient bossus, les gardes civils, ça veut dire qu'ils avaient, ils avaient leur fusil sous leur cape. Ça leur faisait une bosse.
Si vous le voulez bien, vous avez parlé de sensualité, donc nous allons écouter une des romances qui a cette sensualité, je pense, d'une façon incontestable. C'est la romance à la Luna Luna par Paco Ibáñez. Nous allons écouter ça.
Oui.
La luna vino a la fragua con su polizón de nardo. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura su seno de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi brancor almidonado. Como canta la Zumaya, ay, como canta en el árbol. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado.
C'était la romance de la Lune, Lune. Alors, le romance, on peut vous donner des explications de ce que c'est cette romance espagnole.
Je l'explique à la première page, oui, d'ailleurs, en note.
Et il faut le dire, parce que ça peut prêter à confusion.
Oui, mais je le sais. Et c'est pour ça que je l'explique, parce que ça n'a rien à voir avec la romance.
Oui, telle qu'on l'entend, nous, chansons
sentimentales, chansons d'amour, etc. Oui. Quelque chose parfois d'un peu mièvre.
Voilà.
Non, c'est un type de vers qui est en usage en Espagne depuis la plus lointaine période, depuis le 11e et 12e siècle. Oui. Il s'agit d'un vers de 16 pieds qui a été coupé en deux, à l'hémistiche en quelque sorte, et qui donc ne peut rimer qu'au vers pair. Il rime au vers impair. Premier vers, troisième vers, voilà. Et c'est donc le vers de 16 pieds est devenu un vers, un octosyllabe, vous voyez. Bon, et ce vers a fait florès dans toute la poésie espagnole. C'est devenu le vers le plus classique. Voilà, c'est tout.
C'est là qu'on voit aussi le...
Pourquoi est-ce que j'ai mis romance? Je savais très bien que traduire par romance gitane, c'était un beau titre.
Oui.
Traduire par romancero, c'est-à-dire recueil de romance, c'était un peu technique, sans grand intérêt. Mais il faut l'expliquer, c'est ce que j'ai fait dès la première page.
C'est là que l'on voit l'extraordinaire habileté de la langue de Lorca, parce que ce n'est pas facile d'écrire des romances.
Écoutez, c'est un vers qui...
C'est un virtuose pas... quand même, là.
Comment ?
Il y a une virtuosité de la langue.
Ah, mais Lorca est un virtuose, d'une part, mais d'autre part, il a ce vers, ses strophes dans l'oreille, depuis toujours. Hein, les grands dramaturges, d'ailleurs, il a écrit des pièces de théâtre intéressantes, les grands dramaturges classiques écrivaient parfois en ce qu'on appelle le vers romance, ce vers de 8 pieds. Beaucoup de poètes le faisaient aussi. Voilà. Donc, c'est comme nous avec l'alexandrin. Nous avons l'alexandrin dans l'oreille. Oui. Nous le détectons. Parfois, il nous fatigue, d'ailleurs, parce qu'il a parfois un petit côté mécanique. Je ne crois pas que ce soit vraiment le cas du romance. Si vous voulez bien, parce que je pense que la version que donne Paco Ibáñez... elle est juste, mais elle n'est pas, d'une part, elle n'est pas complète.
Voilà, si vous pouvez nous donner la traduction entière. Oui.
Dans ce romancé qui ouvre le recueil, j'y vois autre chose aussi. Oui. J'y vois beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur cosmologique et de douceur. Ah, c'est la lune qui vient chercher l'enfant. Et beaucoup de douceur pour l'enfance et pour l'enfant. Et l'enfant craint. L'enfant fait une sorte de cauchemar. Il sent s'approcher un cavalier, puis des cavaliers, et cela lui fait peur. Et la lune l'emmène, la lune le réconforte en quelque sorte. Alors voilà, la lune est venue à la forge en sa crinoline de nard. L'enfant la regarde, oh comme l'enfant la regarde. Et parmi les airs tout émus, la lune balance ses bras et laisse voir, lubrique et pure, ses seins de dur étain, si dur étain. Bon, je me suis un peu trompé là. Sauve-toi, lune, sauve-toi, lune, lune, lune. S'il venait, venait les gitans. De ton cœur, ô lune, il ferait de blancs colliers des bagues blanches. Enfant, laisse-moi donc danser. Quand arriveront les gitans, ils te trouveront sur l'enclume avec tes petits yeux fermés. Sauve-toi, lune, 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 où déjà j'entends leurs chevaux. Enfant, laisse-moi, ne piétine pas ma blancheur à m'y donner. Le cavalier se rapprochait, frappant le tambour de la plaine, et dedans la forge, l'enfant, tient ses petits yeux, bien fermés. Par le liseré, ils venaient, de bronze et de songe, les gitans, avec leur tête haut levée, avec leurs yeux mi-clos. Comme elle chante, la chouette, ah, comme elle chante dans l'arbre, parmi le ciel s'en va la lune, tenant un enfant par la main. Au-dedans de la forge, pleure et pousse des cris les gitans, et le souffle, la veille, le souffle du vent. Voilà, c'est un merveilleux poème, hein. C'est plein de tendresse, et il n'y a aucune violence, hein, quoi, d'autres poèmes. Voilà, si vous voulez qu'on parle d'autres romances, on peut le faire.
Alors, il y a la romance de la garde civile, j'avais noté, mais vous en avez déjà parlé, c'est-à-dire dont là, on est au contraire dans la violence, et il y a toute l'idée de répression, hein, d'un oui. peuple, d'un alors, peuple pauvre qui est en but quand même à cette difficulté de pouvoir être lui-même. Hein.
Le peuple espagnol était assez méprisé, d'ailleurs beaucoup plus méprisé par ces gens d'extrême droite et par l'Église aussi, hein, ne croyez pas, que par les aristocrates espagnols. Et les aristocrates espagnols, même en 1960, je l'ai constaté, ne craignaient pas de se mêler au peuple, en quelque sorte, aux gens, de leur parler, de jouer avec eux, parfois de pratiquer des sports avec eux. L'aristocrate espagnol ne ressemble pas du tout à la peinture de l'aristocrate, mais la police politique, oui. Et si Lorca est mort, c'est qu'on lui a, cette police politique, parce que c'en était une, lui a reproché amèrement cette vision des gardes civils, cette vision de la répression gratuite et sans objet, vous voyez, qui est en particulier dans ce roman de la garde civile.
Alors il y a aussi une romance de la peine noire.
Ah oui, très belle romance.
Alors, voilà, qui peut-être peut illustrer aussi ce que vous disiez sur le duende.
Oui. Attends, voilà.
Page 13.
Je l'ai retrouvé. Oui, c'est une... comment dirais-je, c'est une femme qui s'appelle Soledad, c'est-à-dire solitude, Soledad Montoya. Et elle est seule, en effet. Et elle attend, si mes souvenirs sont bons, dans sa chambre. Elle attend, elle ne sait pas ce qu'elle attend. Elle attend l'amour, elle attend de n'être plus seule. Et elle entre en conversation avec une voix qui ne lui facilite pas l'attente. C'est donc, elle est dans une peine par frustration, dans une peine... par incompréhension d'une part de sa situation. Voilà. Tu pleures de ces aigres larmes de citron qui restent en bouche. Si grande est ma peine, je cours dans ma maison comme une folle, maîtresse balayant le sol de la cuisine à mon alcôve. Voilà. Oh ma peine, je deviens toute de jet, et ma chair, et ma robe. Voilà. C'est un très beau poème de nostalgie, mais un autre poème dit ces choses-là un peu aussi, c'est la c'est verde que te quiero verde.
Ah oui,
voilà, c'est le roman somnambule qui est un peu avant. Et alors il y a encore autre chose là, c'est la jeune femme un petit peu comme la diva, la diva de Jules Verne dans le Château des Carpates, qui est une apparition holographique, vous voyez. C'est un peu ça, à mon avis. Elle est à son balcon et Lorca la regarde comme est regardée par son amoureux qui, pour qui elle a disparu, cette diva. Elle est au balcon. Et Lorca la regarde comme une femme qui a été, comme quelque chose du passé, quelque chose qui s'est effacé. Et ça, c'est un grand vertige de la peine humaine, de penser que on va disparaître soi, vont disparaître avec nous des souvenirs qui n'appartiennent qu'à nous ou à très peu de gens, et tout un monde va s'engloutir après nous. Voilà. Alors, vert que j'aime tant, ô toi, vert, vent vert, et vous, mes vertes branches, la barque là-bas sur la mer et le cheval dans la montagne, l'ombre montée jusqu'à sa taille, elle songe à la balustrade, à la balustrade. Vous voyez, verte sa chair, vert ses cheveux, avec ses yeux de froid d'argent, vert que j'aime tant, ô toi, vert, sous la lune, lune gitane, les choses toutes la regardent, elle qui regarder ne peut. C'est ça qui me fait penser à cette femme en filigrane, en quelque sorte. Hein. Les choses toutes la regardent, les choses sont là, les choses ne cessent d'exister. Elle qui regarder ne peut, elle ne peut regarder. Elle est une ombre, elle est quelque chose de disparu, vous voyez. Donc c'est ça aussi la peine, mais c'est une peine humaine, hein, c'est... Enfin, selon moi.
Oui. Allô ? Oui, on vous écoute, voilà. Oui. Alors, il y a le symbole du vert, hein, qui est très fort chez Lorca, la couleur verte.
Oui.
Hein. Oui. Là, on retrouve d'ailleurs les thèmes un peu lorquiens, là. Il y a le couteau, il y a le cheval, il y a le vert. Tout ça est dans cette
romance. Oui, ça appartient romance, à une certaine mesure, oui, alors oui. Je mets ça entre guillemets, pas au folklore, mais aux traditions andalouses, voire gitanes.
Oui.
Hein. Le vert, c'est l'ancienne couleur musulmane, oui. C'est une terre qui a été très marquée par l'islam. Bon, les poignards, c'est aussi une tradition du sud, hein. Elle va de la Corse au Maghreb à toute la Méditerranée.
Oui.
L'homme n'est pas un homme s'il n'a pas un poignard. Ça va jusqu'au Sikh en Inde, etc. Bon, et ça sous-tend une violence toujours possible, toujours qui s'éveillera au besoin. Cette violence, cette cruauté sont là dans tous les poèmes qui concernent, par exemple, les deux poèmes qui concernent Antonio El Camborio, ce jeune gitan qui sera assassiné par ses cousins.
Oui.
Voilà.
Y Antonio Torres Heredas, quien te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir. Hein? Oui. Et il y a aussi dans le roman Somnambule, il y a Compagnon, je viens tout en sang, je descends des cols de Cabra. Donc il y a aussi, il situe, hein, il situe bien bon, cette montagne, hein, qui est une très belle montagne, hein, entre Cordoue et Malaga. Hein.
Oui. Et puis c'est ancré dans des lieux.
Oui.
Des lieux bien, bien nommés, Albacete et cette montagne-là.
Oui.
Vous voyez, ça n'est pas abstrait, ce n'est pas une poésie inventée autour du moi seul. Alors j'ai moi personnellement une certaine réserve, pour ne pas dire plus, envers les poètes du jeu, c'est-à-dire le jeu qui devrait être un autre mais qui ne l'est pas en fait, qui est toujours le moi, et ça me gêne parfois, vous voyez, tout voir à travers son moi, ça me paraît à la limite parfois de l'escroquerie poétique, hein. Ce n'est pas le cas de Lorca en tout cas.
Oui, effectivement. Il y a aussi la dimension de, alors on parlait des couleurs, la dimension du rouge et du sang. Le sang, oui. Non, le sang, je ne veux pas le voir, etc.
Alors ça c'est un poème extraordinaire. Il n'appartient pas au romancero, mais il est souvent joint en finale au romancero. C'est cette mort du torero, hein, c'est... c'est Torero Sánchez Mejías. Oui. Alors, il y a ces vers fameux, il s'ouvre. C'est un très long poème, et très beau en plusieurs parties. Attendez, j'entends, je n'ai qu'une main parce que je tiens le téléphone de l'autre pour essayer de le retrouver. Il y a d'ailleurs il est divisé en sections, en séquences. L'une des séquences s'intitule Le sang répandu, hein, la sangre derramada. Et il commence ainsi. Il commence ainsi, oui. Le coup de corne et la mort, hein, la corrida y la muerte. À las 5 de la tarde, eran las 5 en punto de la tarde. Alors, à 5 heures de l'après-midi, il était juste 5 heures de l'après-midi. Alors, beaucoup de traducteurs traduisent à 5 heures du soir. Mais c'est un petit faux sens, si vous voulez, ou un grand faux sens. Parce que en Espagne, en été, à 5 heures, nous sommes en plein après-midi. Hein. C'est donc à 5 heures de l'après-midi, en plein jour, sous le soleil, qu'a été tué par le taureau, ce torero, hein, Sánchez Mejía, Ignacio. Est-ce que vous voulez qu'on en lise un passage?
Oui, bien sûr.
Vous le choisissez, si vous voulez.
Alors, attendez, je ne sais pas. Peut-être, alors... Le coup de corne et la mort.
Ben c'est le tout premier. Alors, ouais. Bien écoutez, je vais lire ce.
Il est le long, sang répandu, le sang répandu, oui. Le sang répandu.
Ah, le sang répandu, oui. Alors, attendez.
Non, je ne veux pas le voir.
Oui, oui.
C'est page 44.
Oui. Alors, quand même, je lis 4 ou 5 vers de l'encornage et de la mort. Bon. El viento se llevó los algodones a las 5 de la tarde, à 5 heures de l'après-midi, et l'oxyde sema cristal et nickel à 5 heures de l'après-midi. Déjà se combattent la colombe et le léopard à 5 heures de l'après-midi. Et tous ces vers sont rythmés par ce refrain de à 5 heures de l'après-midi, c'est-à-dire l'heure fatidique, une heure sans doute marquée depuis. Il connaît son heure. Son heure est venue, voilà. Alors, la sangre des Ramana, le sang répandu. Alors, là, c'est le poète qui pleure. Hein. Non, je ne veux pas le voir. Dis à la lune de venir, car je ne veux pas voir le sang d'Ignacio sur le sable. Non, je ne veux pas le voir. La lune, ouverte de part en part, cheval de nuée paisible, et la plaza, grise de songe, avec des saules aux barrières. Le sang, non, je ne veux pas le voir. Car mon souvenir se consume. Allez le dire aux jasmins, en leur minime blancheur. Le sang, non, je ne veux pas le voir. La vache du vieux monde passait sa triste langue sur son mufle sanglant. Le temps de sang versé dans le sable. Et les taureaux de Guichondo, faudrait expliquer, à demi-mort, à demi-pierre, mugir comme deux siècles harassés de fouler la terre. Non, ce sang, je ne veux pas le voir. Par les degrés monte Ignacio, avec sur son dos sa mort tout entière. Il cherchait le point du jour, et il n'était point de jour à naître. Il cherche son plus ferme profil, mais le songe l'égare. Il cherchait son corps de beauté, et trouva son sang grand ouvert. Ne me dites pas de le voir, non. Je ne veux pas sentir le jet, perdant à chaque fois de sa force, ce jet sanglant qui illumine les gradins et se répand sur le velours et le cuir de la multitude altérée. Qui donc me crie de me pencher? Non, ne me dites pas de le voir. Voilà. Et, comme souvent chez Lorca, la mort se résout en un portrait gravé, une gravure dans la pierre, le marbre, dans ce que vous voulez, dans quelque chose de précieux. Alors, il le loue, il dit ce que représente la noblesse du torero, qui n'assassine pas le taureau, il combat avec lui, même si c'est à armes inégales, c'est certain, mais le taureau combat, c'est ce qui fait la noblesse, et il a quand même ses chances. Hein. Alors, Lorca dit ceci, « Il n'y eut de prince dans ces villes qui pût lui être comparé. ni épée comme son épée, ni cœur si véridique. Pareil à un fleuve de lion, sa force merveilleuse. Pareil à un torse de marbre, sa prudence aux fermes tracées. Un air de Rome andalouse, Rome est toujours présente, hein. Un air de Rome andalouse, de son or lui nimbait la tête, et son rire était un jasmin, tout de sel et d'intelligence. Si grand torero dans l'arène, si bon montagnard en montagne, si doux au milieu des épis, si dur avec les éperons, si tendre avec la rosée, éblouissant pendant la fête, et terrible avec les ultimes banderilles de ténèbres. Voilà. C'est un homme qui est mort, un homme comme nous en fait, hein, qui avait ses passions, ses jeux, et ce jeu du taureau qui est quelque chose de très particulier à l'Espagne, qui l'a été un peu au sud de la France, qui l'est encore d'ailleurs. Voilà, il faut comprendre la tauromachie aussi.
Oui, bien sûr. Je
crains que ce poème ne puisse être compris aujourd'hui.
Oui. Quand on regarde par exemple ce qu'a fait Goya aussi, il y avait la tauromachie.
Oui, hein, oui.
Je crois qu'on a l'âme aussi de cette Espagne-là, quoi, qui
oui, elle est.
Qui est quand même.
Elle est morte, puis oui. elle n'est pas morte seulement dans la disparition des corridas. Parce que des corridas, il y en a encore. Hein,
oui.
Mais elles sont devenues une sorte de commerce,
oui, voilà, c'est ça, oui.
De marchandisation du spectacle.
Oui.
Hein. C'est devenu plutôt un spectacle. Ça l'a toujours été, mais dans une certaine mesure. Et puis, les toreros, les matadores, ceux qui tuent le taureau, prenaient des risques. Le premier peut-être à tromper un peu son public, à jouer avec lui, c'est comment s'appelait-il, Benitez, je ne sais plus le nom de ce torero qui a sévi dans les années, qui était un peu un clown, hein, qui se jetait.
El Cordobés.
Qui laissait passer les cornes très loin de son ventre,
oui.
Et puis dès qu'elles étaient passées, il se jetait sur le sang qui était sur le dos du taureau, vous voyez.
Bon, c'était une époque où il y avait un grand conflit entre justement ce qu'il incarnait, lui voulant régénérer la tradition. Il a régénéré parce qu'il avait beaucoup de public, hein, mais en même temps, il a participé inconsciemment aussi à sa destruction. Parce qu'il n'était plus dans la tradition.
Il allait vers le spectacle sans probablement le pouvoir le verbaliser, le penser.
Sans le duende.
Voilà.
Oui.
Alors, le duende, c'est autre chose. C'est une autre forme de dépassement. Oui.
Alors, il y a dans la tradition méditerranéenne, donc, ce côté de la vengeance. Vous parliez des couteaux, des poignards.
Oui.
Que l'on retrouve là, la vendetta, hein, méditerranéenne.
Oui.
Il y a une romance là-dessus, c'est la romance de celui à qui le jour fut annoncé. Ça, c'est votre traduction. Hein.
Je n'aime pas ça,
non, oui.
Alors attendez, je vais essayer de le...
Alors ça, c'est page 28.
Page 28, voilà. J'y suis. Voilà. De celui à qui... J'aurais dû traduire par « à qui son jour
fut annoncé ». Oui, c'est-à-dire, bon, c'est sa mort, hein, c'est le jour de sa mort.
C'est le jour de sa mort, oui. Et il prend ça avec, comment dirais-je, un stoïcisme profond, il s'appelait El Amargo, l'amer, le triste un peu. Alors on lui dit, on vint dire à El Amargo, tu peux couper... si ça te chante, les lauriers roses de ta cour, et peindre une croix sur ta porte en écrivant ton nom dessous, parce que ciguës et orties bientôt écloront de tes flancs, et des aiguilles de chauvive viendront te mordre les souliers. Voilà, ce sera la nuit dans l'obscur, à travers les monts aimantés, là où les bœufs du fond de l'eau boivent les joncs en rêvassant. Tu vas mourir dans ton paysage, dans ton pays et tu ne pourras rien y faire. Et à la fin, au 25 du mois de juin, Amargo ouvrit grand les yeux et le 25 du mois d'août, il se coucha pour les fermer. Des hommes descendaient la rue pour visiter l'homme assigné qui, sur le mur, considérait fort apaisé sa solitude. On est toujours seul quand on est mort, et quand on meurt plutôt. Et le linceul d'un blanc parfait, marqué d'austère accent romain, voyez toujours Rome, faisait équilibre à la mort avec ses degrés rectifs. Oui, Rome est toujours là. Rome, c'est comme pour nous, c'est le fond de la civilisation latine. Hein. C'est pour ça que je suis très agacé quand certains veulent arrêter l'histoire de France à 1789. Non, c'est impensable, c'est impensable. Bon, je ne parle pas de colonisation. Voilà, bon, j'arrête là.
Alors, il y a aussi la Rix, hein, donc...
Oui.
Rix, là au beau milieu du ravin. Les longues dents.
Vous avez la page?
Alors, c'est page 5, tout simplement. 5, au début. 5, hein.
Oui. La page 8, page 6. Voilà. La relief.
Voilà.
Bon. Voilà. Alors, c'est encore une illustration
de la garde civile. Hein
de la garde civile, mais aussi sans doute une vengeance.
Oui, voilà, c'est le même, on retrouve encore ces mêmes thèmes.
Hein oui, c'est toujours le même thème qui dit cette... Il y a aussi un certain mépris que je dirais oriental, hein, parce que je le constate encore aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un journal, pour la vie de la personne humaine. La personne humaine ne compte pas en soi. Elle peut disparaître, semble-t-il, et c'est le cas ici. Et seules deux vieilles femmes sont en larmes. Tout le reste, les oliviers, la nuit, tout est en place. Et voilà. Et rien de nouveau sous le soleil. Ici, quatre Romains sont morts. Et aussi cinq Carthaginois. Il y a eu la Rix, la bataille, voilà, le soir affolé de filets, et par cent rumeurs enflammées, tombe et défaille sur les cuisses meurtries encore des cavaliers. Des anges noirs volaient très haut, portés au souffle du couchant. C'étaient anges aux longues tresses, et dont les cœurs étaient faits d'huile. Bon, il y a toujours une esthétisation. Oui, c'est Lorca, il dit les choses, en fait il ne les cache pas, mais il ne les exacerbe pas. Même avec les gardes civils de la ville gitane, il dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les pense, telles qu'il les traduit, du réel.
Et en même temps, ce poème a une valeur tout à fait intemporelle et universelle. Hein, ce que vous avez dit au départ, on en est toujours là, quoi.
Oui, l'anecdote qui
arrive à l'universel immédiatement.
Qui rejoint l'universel.
C'est les plus grands qui savent faire ça.
Oui. Hein. Oui. Voilà. Aujourd'hui, Lorca jouit d'une, en tout cas en France, d'une très faible réputation. Oui. Les universitaires... Et les poètes un petit peu abstraits, je ne citerai personne de notre temps, les poèmes qui font de la poésie avec des chiffres, avec des alphabets, avec tout ce que vous voulez, méprisent un poète qui dit les choses, un poète qui raconte, un poète qui a des images nécessaires, et non pas des images cueillies pour l'image, voyez. Alors, c'est un poète... qui est trop transparent, qui est trop ancré. Nous sommes à l'époque, non pas de l'universel, mais du mondial, de la mondialisation. C'est tout à fait différent.
Oui.
Nous sommes non pas à une époque de comment dirais-je, de la de l'exaltation de la personnalité, de l'originalité, de la différence en quelque sorte. Cela est pourchassé dans les écoles. Il ne faut surtout pas être,
différent
et même meilleur. Là, c'est pire que tout. Si vous êtes meilleur, c'est comme disait...
Il y a aussi le mouvement inverse, hein, puisque les éditions RS, par exemple, Poepsi, viennent de publier Le Polisseur d'étoiles, c'est-à-dire toute l'œuvre poétique de Lorca, qui a été publiée dans un format poche très, très agréable. Hein. Oui. Et donc il y a aussi beaucoup de personnes qui disent, attention, là on a quelque chose qui fait partie du génie de l'humanité. Voilà. En tout cas, nous vous remercions pour cette traduction et surtout cette remise à l'honneur, ce rappel de ce que Lorca peut apporter quand même à la civilisation aussi, avec ce livre, donc Romancero Gitano, les romances gitanes suivies de complaintes funèbres pour Ignacio Sánchez Mejía, traduction nouvelle de l'espagnol par Michel Host aux éditions Alcyone. Ça vous coûtera 16 euros.
Merci beaucoup,
Michel Host, et j'espère que nous aurons le plaisir, parce que nous n'avons pas trop parlé de vous, mais j'espère que nous aurons le plaisir, peut-être à l'occasion d'une prochaine émission, de parler un peu de vos activités, non pas de traducteur cette fois-ci, mais de créateur. Hein. Donc nous vous disons à très bientôt.
Écoutez, je vous remercie moi aussi,
D'accord, merci.
À quand vous voudrez.
Voilà. Merci beaucoup. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. Alicias. Mm-hmm.
campagne.